Dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8, aimez-vous les promesses de Dieu ? Amen. On peut lire à partir du verset 28. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses ? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui ? Qui accusera les élus de Dieu ? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera ? Christ est mort, bien plus il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée ? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous mette à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. C'est une belle promesse, hein ? Belle promesse. Tu peux dire à ton frère, à ta sœur, Dieu te veut du bien. Dieu te veut du bien. Je crois que c'est l'un des versets. C'est important, ça, hein ? C'est l'un des versets les plus réconfortants de la parole. Il y a plusieurs versets comme ça qu'on aime bien se repasser. Et c'est l'un des plus réconfortants, des plus consolants. Mais c'est peut-être aussi l'un des plus mal compris. Pierre en parle dans sa deuxième épître, en parlant, en disant par rapport aux certains écrits de Paul, qui certains sont difficiles à comprendre et on peut en tordre parfois le sens, mal l'interpréter. Et pour ce passage, ça peut être aussi le cas. Il n'en demeure pas moins que c'est une promesse extraordinaire, précieuse, que nous devons serrer dans notre cœur. Amen. Il est dit que Dieu fait concourir toutes choses pour le bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. La bonté de Dieu, elle est pour tous les hommes. Dieu est bon parce que c'est sa nature et il est bon pour tous les hommes. D'ailleurs, l'un des chants disait, le vrai trésor est pour ceux qui l'ont choisi déjà aujourd'hui. Et ce que je veux dire, c'est que certes, la bonté de Dieu, elle s'étend sur tous les hommes. Pourquoi ? De quelle manière ? D'abord, il a donné son fils Jésus. La Bible dit dans Jean 3,16 que Dieu a tellement aimé le monde, donc c'est tous les hommes qu'il a donné son fils unique, afin que celui qui croit en lui ne meure pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Elle se manifeste aussi dans le sens où Dieu fait pleuvoir sur les bons comme sur les méchants. Il fait lever son soleil sur les justes comme sur les injustes. Ça veut dire que Dieu, de manière générale, parce que c'est son cœur, parce que Dieu aime, parce que Dieu est bon, eh bien, il fait du bien à tous les hommes. Mais ce qu'on vient de lire, cette promesse, elle est pour les élus de Dieu. De même qu'on peut aimer tous les enfants. Vous pouvez, si vous aimez les enfants et vous savez que les enfants aiment, je ne sais pas moi, tel dessert, vous pouvez en donner à tous les voisins, etc. Mais à vos enfants, il y a tout de même un traitement particulier. C'est vrai ou c'est faux ? On peut faire du bien à tous les enfants dans la mesure de nos possibilités, mais c'est évident qu'à ceux qui nous appartiennent, que nous avons là, à nos enfants, ceux qui sont sous notre toit, il y aura un traitement particulier, privilégié, c'est normal, ce sont nos enfants. C'est vrai ? Mais pour Dieu, c'est la même chose. Pour Dieu, c'est la même chose. Nous sommes des privilégiés si nous sommes élus de Dieu. Si nous sommes de ceux qui aimons Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Et Dieu sait, Dieu connaît les cœurs de ceux qui l'aiment. Ça ne se voit pas forcément, ce n'est pas visible forcément aux yeux des autres, aux yeux de tout le monde, mais Dieu sait. Si tu aimes Dieu de tout ton cœur, Dieu le sait. Il voit tes difficultés, il voit tes combats. Mais Dieu sait que si tu l'aimes, lui le voit, il en tient compte et il a un plan pour toi. Un plan plein de choses extraordinaires, merveilleuses. Ce verset nous montre que cette promesse, elle est ciblée. Elle n'est pas adressée à tous les hommes, même si Christ est mort pour tous les hommes, qu'il les aime tous également. Mais c'est le privilège de traitement réservé aux élus de Dieu, comme on l'a vu, de ceux qui sont entrés par la porte du salut.
elle est accessible à tous les hommes, cette promesse, à partir du moment où ils acceptent de se repentir et de prendre Jésus pour sauveur et pour Seigneur. Parce qu'il nous est parlé de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein, donc qui sont appelés et qui rentrent dans le dessein de Dieu, dans les projets de Dieu sur cette terre. Ce verset nous dit que toute chose concourt au bien. C'est-à-dire que Dieu ne se contente pas d'avoir des pensées de bonté à notre égard, mais il met en œuvre, c'est-à-dire qu'il travaille, toute chose travaille au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu n'est pas resté au ciel, on le voit, il a envoyé son fils Jésus. Et Dieu continue de travailler à notre bien sur la terre. Vous voyez, ce n'est pas seulement une pensée utopique générale. Mais Dieu veut ton bien et Dieu va y travailler, il va faire concourir toute chose, tout ce qui est possible. Tout mettre en œuvre pour ton bien personnel. Parce que tu lui appartiens, parce que tu es de ceux qui l'aiment et qui sont appelés selon son plan, selon son dessein. Comme nous, par rapport à nos enfants, ils peuvent ne pas être obéissants, il peut y avoir parfois des moments difficiles, mais on va tout mettre en œuvre, parce que ce sont nos enfants, on va tout mettre en œuvre pour leur bien. Pour Dieu, c'est la même chose. On se considère souvent, on peut être adulte, ou même en tant qu'ado, on peut souvent se considérer même comme adulte, même si on ne l'est pas, mais vis-à-vis de Dieu, nous restons des enfants. Nous restons ses enfants. Ça ne veut pas dire que Dieu nous appelle à être immatures, mais vis-à-vis de Dieu, nous sommes toujours ses enfants. Toujours ses enfants. Et Dieu veut s'occuper de nous comme un père s'occupe de ses enfants. Dieu veut le bien de ses enfants et il travaille dans le temps, pour ne pas dire tout le temps. Il s'en donne les moyens au travers de ces choses qu'il va mettre en œuvre. Ce verset nous dit « Nous savons ». Que toute chose, du reste, que toute chose concourt au bien. Et je me suis posé la question, nous savons, mais le savons-nous vraiment? Nous le savons intellectuellement, mais en avons-nous vraiment conscience? Réalisons-le vraiment, au plus profond, notre cœur. Les psaumes disent, le méchant dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Il ne le dit pas forcément de sa bouche. On peut confesser, on peut chanter, on peut même dire, on peut prier, on peut louer, mais au fond de notre cœur, pour X raisons, on peut penser au plus profond de notre cœur, que finalement Dieu n'est pas bon. Ou il est peut-être bon pour les autres, mais il n'est pas bon pour moi. Et ce qui est le plus important, c'est ce que nous pensons au plus profond de notre cœur. Le savons-nous, le sais-tu vraiment, mon frère, ma sœur, dans ce que tu vis, dans tes difficultés, dans tes épreuves, que Dieu t'aime et que Dieu est bon. C'est important, ça. Hein, c'est très important de réaliser que Dieu est bon. Et Dieu est bon pour nous et Dieu est bon pour toi, particulièrement si tu es son enfant. Vous vous souvenez de la parabole, Patrick nous en avait parlé, la parabole de ce serviteur, la parabole des talents. Le troisième serviteur, à qui le maître avait remis un talent, quand il revient, il n'a pas fait valoir son talent, et voilà ce qu'il va dire. Il va dire, je sais que tu es un maître dur. Il a une vision de son maître qui est dure, Matthieu 25. Et il avait peur. Il avait peur de son maître. Et c'est important parce que notre conception, ce que nous pensons au plus profond de notre cœur de Dieu, ce que nous connaissons de Dieu, va déterminer la façon avec laquelle nous allons le servir. Nos actions, nos œuvres. Vous voyez, cet homme, il avait une conviction fausse, erronée de Dieu. Là où Dieu est bon, lui, il a une vision dure. Il avait peur de Dieu. Et du coup, la façon dont il s'est mis à servir Dieu s'est traduit par le fait qu'il a préféré cacher, il était complètement à côté de la plaque. Il avait une mauvaise vision de Dieu. Et c'est important pour nous d'avoir cette bonne vision de Dieu, que Dieu nous aime, que Dieu est bon. Cette certitude, cette connaissance de la bonté de Dieu, elle doit être enracinée dès le début de notre marche chrétienne, dès le départ. C'est important que quand on vient, les nouveaux convertis, que Dieu est bon, que Dieu les aime. Que la vie ne va pas forcément être facile pour eux, mais que Dieu est bon. Nous le disons, nous le chantons et nous faisons bien. D'ailleurs, l'un des chants disait « Je chanterai en tout temps sa bonté ». Et c'est vrai, le psaume 73:1 dit « Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur ». Donc Israël, nous sommes l'Israël de Dieu en tant que l'Église. Si Dieu est bon, ça veut dire qu'il nous veut du bien fondamentalement, n'en doutons point. Même quand nous sommes tentés, parce que ce n'est pas Dieu qui nous tente, c'est nos convoitises. Mais ce n'est pas Dieu qui nous tente. Dieu est bon et Dieu n'est jamais tenté par le mal, il ne tente lui-même personne. Ce n'est pas Dieu qui nous tente. Il est dit ensuite que toute chose concourt au bien. Et on va essayer de voir la notion de bien, parce que la notion de bien, pour l'un c'est une chose, pour l'autre c'est autre chose. Pour l'un, la notion de bien, c'est peut-être d'habiter au bord de la mer. Pour un autre, ça va être habiter à la montagne, etc., etc. Nous n'avons pas les mêmes notions de bien. Et par rapport à Dieu, nous allons voir que la notion de bien est parfois différente. Considérons la notion de bien du point de vue de l'homme. Ça peut être quoi pour nous ce qu'on pense être bien? C'est pas de problème de santé, pas de douleur. Vous êtes d'accord avec tout ça? Pas de soucis. Une bonne épouse, un bon mari toujours aimant, disponible, serviable. De bons enfants, toujours obéissants, doués pour les études. Une bonne église sans aucun problème, avec des frères et sœurs qui m'acceptent comme je suis, qui me comprennent, qui sont toujours prêts à m'écouter, à me consoler, à m'encourager quand j'en ai besoin. C'est ce qu'on souhaite et c'est bien. Dieu le souhaite aussi, mais c'est l'église céleste ça. Et c'est la vie au ciel. La réalité est différente, non pas que Dieu ne veuille pas que ça se passe comme ça, mais nous sommes encore sur la terre, avec les réalités, avec notre chair. Dieu n'est pas contre toutes ces choses qui sont souvent légitimes, mais Dieu ne nous a pas fait la promesse qu'elles nous arriveraient sur cette terre. Cette conception humaine tient-elle devant Dieu? Est-ce qu'elle est fiable? La réponse, on l'a au verset 26 de notre passage. Nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander. Paul dit, nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Nous ne savons pas ce qu'il nous convient. Ça veut dire que nous ne connaissons pas vraiment ce qui est bien pour nous, ce dont nous avons réellement besoin. Et c'est pour ça que le Saint-Esprit va nous venir en aide dans notre faiblesse. On peut aussi traduire dans notre incompétence. Oui, transcrire dans notre incompétence à discerner nos besoins en rapport avec la volonté de Dieu. C'est une pensée qu'on retrouve aussi dans l'Ancien Testament, par la bouche du prophète Jérémie, Jérémie 10, 23. « Je le sais, ô Éternel, la voix de l'homme n'est pas en son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme quand il marche à diriger ses pas. » Combien de fois on avait fait tel projet et ça ne s'est pas passé. Et on a été déçus. On a même dit, on était déçus vis-à-vis de Dieu. Et puis avec le recul, on a dit finalement, c'est pas si mal que ça. Merci Seigneur. C'est vrai ou c'est faux? Ou ça prenait une voie qui semblait mauvaise et puis Dieu a transformé la chose. Amen. Amen. Dieu connaît tellement mieux que nous nos vrais besoins, parce qu'il nous connaît parfaitement. Mon frère, ma sœur, fais confiance à Dieu par rapport à tes besoins. Lui sait mieux que toi. La Bible dit dans un passage, Jésus qui dit, il sait que vous en avez besoin. Le Seigneur sait de quoi tu as vraiment besoin. Tu peux lui dire, tu lui as dit, mais crois que Dieu sait, il a ça dans sa main. Tu n'as pas forcément besoin de lui répéter continuellement. Il sait. Dieu prend au sérieux nos besoins. Comme nous prenons au sérieux les vrais besoins de nos enfants. Même si nous ne sommes pas parfaits, méchants comme nous le sommes, nous savons donner de bonnes choses à nos enfants. Mais Dieu a plus forte raison. Dieu sait de quoi nous avons vraiment besoin. Alors ce vrai besoin, dépose-le au Seigneur. Fais-lui confiance, ça viendra en son temps, sous une forme ou sous une autre. Amen. Mais il faut de l'humilité, de l'honnêteté pour reconnaître, pour admettre que nous ne sommes pas les mieux placés pour identifier nos vrais besoins. Le seul qu'il soit vraiment, c'est seulement Dieu. Dire, Seigneur, je te remets, moi j'aimerais bien faire ça, j'aimerais bien qu'il m'arrive telle chose. Mais Seigneur, toi tu sais mieux que moi, alors je te fais confiance. Dans nos vies, on a tellement l'habitude de gérer les choses, et on le doit, pour le mieux. Mais pour notre propre vie, ici-bas, selon la volonté de Dieu, c'est Dieu qui peut le mieux que nous diriger. Non pas. Maintenant, du point de vue de Dieu, la notion de bien, elle est, on peut dire, quand même différente de celle des hommes. Pour ne pas dire parfois opposé, Esaïe le dira, « Mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus des cieux, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Le bien que Dieu recherche dans nos vies, ce à quoi il travaille, pour voir ça dans nos vies, c'est ce qui plaît à Dieu. Le bien, c'est d'abord notre obéissance à sa volonté. Le fait d'accomplir ses œuvres. Jésus le dira par rapport au baptême, alors que Jean-Baptiste ne voulait pas le baptiser, il est dit, laisse faire maintenant, il est convenable, il est bien que nous accomplissions tout ce qui est juste. Jésus était venu pour accomplir la volonté de son Père. Il le dira, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir ses œuvres. Vous savez que nous sommes son ouvrage, nous sommes l'ouvrage de Dieu. Et que Dieu a préparé pour nous des bonnes œuvres afin que nous les accomplissions. Dieu a des bonnes œuvres. Nous, parfois, nous voulons faire telle chose, mais Dieu a des œuvres qui sont préparées d'avance. Et le but, c'est de rechercher quelles sont les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour les accomplir. C'est ça. C'est ça le bien que Dieu veut pour nous. Parce que c'est ce qu'il y a de meilleur pour nous, finalement. C'est ce qu'il y a de meilleur pour nous. En parlant de David, Dieu dira, j'ai trouvé David, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Il accomplira toutes mes volontés. Pas toutes ses volontés. Et quand il a accompli ses volontés, on voit où ça l'a conduit. Mais il avait un cœur selon Dieu, il s'est repenti, il est revenu à Dieu pour se remettre sur le chemin. Ce qui veut dire que c'est possible, si tu t'es détourné de la volonté de Dieu pour accomplir ta volonté, et tu le sais très bien à ce moment-là, c'est encore possible de te repentir comme David, sincèrement, de recevoir le pardon de Dieu et de repartir dans la bonne direction. Amen. On a un Dieu qui restaure, qui pardonne, si on est sincère et qu'on lui demande pardon et qu'on fait tout notre possible pour réparer. Lui, il répare parfaitement, il est le réparateur des brèches. Le bien pour Dieu dans nos vies, c'est notre fidélité à faire valoir ce qu'il nous a confié, à le faire fructifier, à travailler. On reprend cette parabole des talents, Matthieu 25, le maître va dire aux deux premiers serviteurs, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. C'est bien, bon et fidèle serviteur. Le fait de faire valoir ce que Dieu nous a confié, c'est ça qui va plaire à Dieu, c'est bien. C'est bien, mon frère, de mettre en œuvre ton salut, de mettre en œuvre ce que Dieu t'a confié. Quoi que ce soit. Mais de bien faire ce que tu as à faire et de bien le faire pour le Seigneur. La Bible dit, tout ce que vous faites, faites-le comme pour le Seigneur. Pas seulement quand nous sommes dans l'église, mais où que nous soyons. Notre famille, à notre travail. Quelle que soit la capacité, le talent que nous avons reçu. Verset 29 de notre texte, Romains 8, 29. Le bien selon Dieu, c'est notre identification à Jésus-Christ, notre ressemblance. Il est dit que ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier de beaucoup de frères. Ça, c'est le but suprême que Dieu poursuit dans nos vies sur la terre. Que nous tendions à ressembler à Jésus. Que nous tendions à ressembler à Jésus. À voir son caractère et à faire ses œuvres. Et c'est important de relire parfois quand on est chrétien, on lit moins, on peut avoir tendance à moins lire les évangiles en disant je connais. Mais c'est important parce que c'est là aussi qu'on voit Jésus. Toute la Bible est inspirée de Dieu, toute la Bible. Mais c'est important de ne pas négliger non plus les évangiles. Les évangiles, c'est pas seulement pour les nouveaux convertis, mais c'est aussi pour nous. Où là, on voit comment Jésus se comporte dans différentes situations. Ce que Dieu veut, c'est que nous lui ressemblions. Le bien selon Dieu, c'est l'accomplissement de son plan rédempteur en faveur des hommes. Verset 39, on le voit, il nous est parlé de prédestination, d'appel, de justification, de glorification. Je dirais que c'est un package que Dieu a pour nous, qui est réservé à ceux qui l'aiment, à ses élus. Et ce plan, certes, il commence sur la terre, parce que c'est sur la terre que nous pouvons être sauvés. Au ciel, c'est fini. Donc le salut commence sur la terre. Mais il se poursuit bien au-delà. Le plan que Dieu a pour nous va bien au-delà. C'est comme pour nous, par rapport à des enfants, par rapport à nos enfants, on peut, si ça correspond, répondre à leurs besoins immédiats. Mais on voit beaucoup plus loin, parce qu'on sait que voilà, il faudra un jour que ce soit des pères, des mères de famille, qu'ils aient un travail, qu'ils sachent assumer, etc. Donc on se projette beaucoup plus loin. Dieu, c'est la même chose. Il se projette beaucoup plus loin. Et il se projette au-delà même de la terre, jusqu'au ciel. C'est ça que Dieu a en vue pour nous. Et donc, il y travaille. La terre est un chemin préparatoire. La portée a une dimension éternelle, céleste. D'ailleurs, Jésus dira, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Il dit, je m'en vais vous préparer une place. Et quand ce sera prêt, je reviendrai. Et je vous prendrai, vous serez avec moi. Et c'est ce que Dieu fait. Pour l'instant, les places ne doivent pas être encore préparées. Mais quand ce sera parfaitement prêt, eh bien, Dieu nous prendra. Et là, ça nous ramène à notre vocation sur la terre, de pèlerins. Nous ne sommes que des voyageurs. Même si on est sédentarisé pour la plupart, nous ne sommes que des voyageurs. Dieu peut nous bénir matériellement ou autre. Merci Seigneur. Mais ces choses-là, un jour, on va les laisser. Parce que nous ne sommes que de passage. Et parfois, on se comporte avec ces choses-là comme si c'était qu'on allait avoir ça pour toute notre vie. On doit faire pour le mieux, bien sûr, tant qu'on est là. C'est comme quand vous faites du camping, bah vous voulez que votre tente elle soit à peu près le mieux ajustée possible pour que les vacances se passent bien. Mais finalement, sur la Terre, c'est comme des grandes vacances. Et parfois, dans les grandes vacances, il pleut. Il ne fait pas beau, il peut y avoir des petits problèmes. Bah, pour nous, dans notre pèlerinage terrestre, parfois, il y aura des problèmes, des soucis. Mais c'est que deux passages. Et Dieu le sait, il a cette vision-là. Verset 17 de notre texte, il est dit « Si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ. » Ce qui veut dire que le bien selon Dieu fait référence à notre filiation à Dieu, à notre héritage céleste qui est réservé. Ça, ceux qui ne veulent pas de Dieu, qui n'ont pas accepté Jésus comme sauveur, n'ont pas ce privilège-là, n'ont pas ce bien-là que Dieu est en train de préparer. Colossiens 12, « Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. » C'est ça qui nous est réservé. Nous avons un héritage merveilleux. Et Dieu travaille à ça afin que nous puissions rentrer pleinement dans cet héritage. Déjà, nous avons des arts de cet héritage. Le Saint-Esprit, etc. Nous avons déjà des choses dont nous pouvons profiter. La présence de Dieu, etc. Les bienfaits de Dieu. Mais la réalité, elle sera pleinement au ciel. Ce package, se résume dans ce verset de l'épître de Jean. Voyez de quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés ses enfants. Quel amour le Père nous a témoigné. Sois convaincu que Dieu t'aime et Dieu a tout mis en œuvre et Dieu continue de tout mettre en œuvre pour ton bien, même si tu as l'impression que c'est douloureux. Mais tout ça contribuera à ton bien pour l'éternité. Ce que dure le bien selon Dieu, c'est aussi une intimité toujours plus grande avec lui, la connaissance personnelle de Christ, de son amour. Verset 39 de notre texte, où là, Paul explique que rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Rien ne pourra nous séparer. C'est ça que Dieu recherche aussi. Le bien selon Dieu, c'est l'intimité avec Dieu. Réaliser, goûter à l'amour de Dieu. Paul le dira aux Corinthiens, que la grâce du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu, la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous. Pas avec quelques-uns, mais avec vous tous. Profitez de cet amour de Dieu. Grandir dans cet amour de Dieu. C'est ça que Dieu veut pour ta vie. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. On va s'arrêter sur toute chose. Quels sont les moyens que Dieu va déployer pour arriver à ses fins, à notre bien? Tout d'abord, c'est le ministère du Saint-Esprit qui va agir en et au travers de nous. Versets 12 et 14. « Si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Et ça, le ministère du Saint-Esprit va travailler en nous à nous aider à vaincre la chair et le moi. On n'est pas seul face à la chair. On n'est pas seul face à notre moi. Mais on a le Saint-Esprit. Si tu as des problèmes avec ta chair, avec le péché ou avec un péché particulier, ne lutte pas seul. Dépose ça au pied du Seigneur et travaille. Laisse le Saint-Esprit travailler en toi. Travaille avec le Saint-Esprit pour qu'il puisse te rendre victorieux, parce que c'est le plan de Dieu. Ça fait partie du package, ça. Amen. Le ministère du Saint-Esprit dans nos combats personnels. Le Saint-Esprit dans notre appartenance à Dieu, dans notre identité de fils et de fille de Dieu. Verset 15. « Vous n'avez pas reçu un esprit d'adoption pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit... Mais vous avez reçu un esprit d'adoption, vous n'avez pas reçu un esprit de servitude, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père, Abba, Père ». Est-ce que tu as un problème d'identité? Souvent, les ados peuvent avoir un problème d'identité entre enfants et entre adultes. On peut avoir un problème d'identité. Moi, je suis métisse. Mon père est parti quand j'avais l'âge de 8 ans. J'avais un problème d'identité. Je ne sais pas si j'étais blanc ou si j'étais noir. On peut avoir un problème d'identité lié à notre passé. On peut avoir vécu des traumatismes. Enfant, adolescent ou même adulte, qui fait qu'on est perturbé dans notre identité. Vous avez des gens qui ne savent pas s'ils sont des hommes ou des femmes. Vous avez des gens qui sont... adultes et qui se pensent toujours jeunes. Ça s'appelle le jeunisme. Pas la jeunisse, hein, le jeunisme. Et vous avez des jeunes qui se prennent déjà pour des vieux. Quel que soit notre problème d'identité, qu'il soit mineur ou qu'il soit majeur, il est réglé en Christ. Amen. Il est réglé en Christ. Nous avons reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba Père ». Amen. Tout est réglé pleinement en Christ. Et le Saint-Esprit va appliquer ces réalités dans notre cœur. Amen. Elles sont accomplies, elles sont vraies. Maintenant, il faut qu'on puisse les vivre. Et c'est le Saint-Esprit. Travaille avec le Saint-Esprit. Laisse le Saint-Esprit travailler en toi. N'étouffe pas le Saint-Esprit. N'attriste pas le Saint-Esprit. Où que tu ailles, la personne du Saint-Esprit est en toi. Laisse-le travailler en toi. Amen. Pour guérir au plus profond de toi ton cœur. Lui, il est capable de le faire. Dans l'intercession, versets 26-27, « De même, aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. » Amen. L'Esprit nous aide, il intercède. De différentes manières, l'importance du baptême dans le Saint-Esprit, l'importance qui va, d'où va découler, entre autres, le fait de pouvoir parler en langue, où là, eh bien, c'est l'Esprit qui va se saisir de notre langue, qui va nous permettre d'intercéder directement, selon la pensée de Dieu. Si tu n'es pas baptisé dans le Saint-Esprit, recherche-le. Prie le Seigneur, c'est une promesse, elle est pour toi. Et prie en langue, ne t'en prive pas. Quand tu as un sujet, ça peut être ton mari inconverti, etc., quel que soit le problème, eh bien, parfois, on ne sait plus quoi dire, on répète toujours les mêmes choses. Prie en langue. Présente telle personne, présente telle situation et prie en langue. Le Saint-Esprit sait mieux que toi. Amen. Et puis, parfois, on ne sait pas, on a plus de mots. Et les soupirs sont là. Le Saint-Esprit, même quand nous sommes complètement abattus, nous n'avons plus de mots, eh bien, le Saint-Esprit est là pour nous aider. Réalise le Saint-Esprit, la personne du Saint-Esprit qui est en toi. Ce ministère merveilleux, glorieux, pour les élus, ça contribue à notre bien. Le monde n'a pas ça. Le monde n'a pas ça. Le bien, c'est aussi le ministère de Jésus-Christ, son œuvre accomplie pour le salut des hommes, sa mort et sa résurrection, verset 34. Son ministère actuel dans le ciel, où on le voit, il intercède en faveur des saints. Jésus lui-même, maintenant, à la droite de Dieu le Père, continue d'agir en notre faveur pour notre bien. Il prie, il intercède face aux accusations du diable. Il intercède pour toi, ma sœur, mon frère. Il continue de prier, de plaider ta cause avec son sang, son œuvre à la croix, qui a du poids vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis du Père. Et puis, autre chose qu'on découvre, le bien, ce qui va contribuer à notre bien, ce sont les oppositions. Et ça, on a du mal, parce que, voyez, verset 35, il nous est dit, d'abord les oppositions et les épreuves terrestres. Il dit la tribulation, l'angoisse ou la persécution ou la faim, la nudité. Ah oui, ça veut dire que Dieu va se servir de ces choses-là aussi, pour notre bien. On aimerait l'éviter, mais ça fait partie des choses. Il y a des choses qui sont là, l'opposition, les épreuves. Mais ce qui est rassurant, c'est qu'il n'y a pas de tentation qui n'ait été humaine. Amen. Et Dieu est fidèle, il ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Il nous donnera la force, le soutien pour surmonter cette épreuve. Il y a les oppositions célestes, spirituelles, versets 38-39, les anges et dominations. C'est une réalité. On est dans un monde spirituel. Il est parlé de domination, d'autorité, de prince de ténèbres, des esprits méchants dans les lieux célestes qui cherchent à faire du mal aux hommes et particulièrement aux élus de Dieu. Mais ce qui est rassurant, Apocalypse 2, 9, 10, Jésus dira « Je connais ton affliction, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Le diable va jeter quelques-uns de vous en prison afin que vous soyez éprouvés et vous aurez une tribulation de 10 jours. » La bonne nouvelle, ce n'est pas la tribulation. Même si Jésus l'annonce, donc ça nous permet de nous préparer. Mais elle est limitée dans le temps. Amen. Les assauts, les oppositions ténébreuses, peut-être sur ta vie, sur ta famille, elles sont peut-être là, c'est une réalité, mais elles sont limitées dans le temps. Ces 10 jours, je ne sais pas pour combien de temps ça va durer dans ta vie, mais ce ne sera pas plus que Dieu a prévu. Amen. Tu n'es pas livré au diable. Il semble bien que les tribulations et les épreuves, les souffrances fassent partie aussi des choses que Dieu va utiliser pour notre bien. En quoi la souffrance, très rapidement, va-t-elle contribuer à notre bien? D'abord, le chrétien doit s'y préparer afin de s'éviter bien des désillusions. On retrouve cette pensée dans tout le Nouveau Testament. Pourquoi parler de la souffrance? Parce que ça fait partie de la Bible, ça fait partie de la vie et c'est écrit dans la parole de Dieu, dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament. Jésus l'a dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Amen. Par rapport à Paul, le Seigneur dira, je lui montrerai ce qu'il va souffrir pour mon nom. aux Hébreux, l'auteur aux Hébreux dira « Souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. » Et c'est souvent ce qui a pu nous arriver aussi. Après avoir connu le Seigneur, après avoir été rencontré le Seigneur, on a pu d'un coup être comme dans une fournaise et dire « Qu'est-ce qui m'arrive ? C'était plus tranquille quand je ne connaissais pas le Seigneur. » Mais c'est sûr, maintenant les choses sont dans la lumière. Vous avez un ennemi qui est directement là. Les choses sont dans la lumière, donc le diable se déchaîne. Mais c'est contrôlé par Dieu. Et Dieu fera concourir toutes choses à notre bien quand même. C'est ça qui est important. En quoi la souffrance ici-bas contribue-t-elle à mon bien ? En nous préparant à vivre pour l'éternité. C'est ça que Dieu recherche. Verset 17 de notre texte. Si toutefois nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Et il ajoute que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir. C'est important ça. Parce qu'en lisant ce passage, on voit que si nous voulons avoir part à la gloire céleste, il faut accepter ce chemin, quelque part aussi de souffrance, avec Jésus-Christ et pour Jésus-Christ. Jésus dira, vous savez le chemin où je vais, vous savez où je vais, vous en connaissez le chemin. Le chemin, c'est ça, c'est de marcher comme Jésus. Et Jésus n'a pas eu une vie toute facile ici-bas. Et nous, il faut accepter ce chemin-là, de porter notre croix. Mais ça va nous amener à la gloire. Et sur ce chemin, on sera assisté. Il est peut-être resserré le chemin, mais c'est le chemin qui mène à la gloire. Amen. Et puis, en nous élevant, en quoi la souffrance va nous rapprocher de Dieu, va travailler à notre bien, en nous élevant de nous-mêmes, en nous permettant d'être de meilleures personnes, en nous élevant vers Dieu, en nous préparant vers Dieu, à Dieu, à rencontrer Dieu. La définition d'affliction, ça implique l'idée de subférer, voilà, c'est le terme latin, qui implique l'idée de souffler. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui doit nous... Le but, selon Dieu, de la souffrance, de l'affliction, c'est de nous impulser. Vous savez, c'est comme un trampoline. C'est pas pour nous enfoncer la dépression qui nous pousse vers le bas. Mais le but de l'affliction, quand elle est vécue en Dieu, c'est de nous, comme un trampoline, de nous pousser plus haut, de nous pousser plus loin. Vous savez, quand vous montez sur un trampoline, d'abord, ça enfonce. Et la souffrance, la persécution, elle nous enfonce au départ. Mais le trampoline, il vous fait remonter. Vous voyez ? Et c'est ça, en fait, le but de Dieu. Tu vis une difficulté, tu vis une épreuve, mais le but de Dieu, c'est soit comme un trampoline qui te fasse aller plus loin, être une meilleure personne, mieux ressembler à Jésus-Christ, et puis qui te prépare à aller au ciel. Amen.